Pour cette nouvelle conférence, l'Université du Temps Libre de Virton a choisi un sujet explosif, les OGM. À la fois très médiatisés mais aussi souvent décriés par le grand public, les OGM sont la spécialité de Nathalie Verbruggen. Directrice du laboratoire de physiologie et de génétique moléculaire des plantes à l'ULB, la chercheuse aborde les OGM sous l'angle scientifique mais aussi politique et sociétal. Cette conférence a été enregistrée le 15 janvier 2016 à Virton.
Le titre de ma conférence s'appelle « Une nouveauté ou une continuité » et j'ai organisé cette conférence autour de questions. Donc tout d'abord, les OGM ou organismes génétiquement modifiés, mais c'est quoi exactement? Et quand on parle de modification donc du patrimoine génétique, de quoi on parle? Alors, quels organismes génétiquement modifiés? Donc, qu'est-ce qu'on cultive et où est-ce qu'on les cultive? Comment est-ce qu'on les autorise à la culture? Et y a-t-il d'autres OGM que ceux que nous connaissons dans le pipeline? Et enfin, les arguments scientifiques font-ils encore partie du débat? Alors tout d'abord, il faut savoir que les organismes génétiquement modifiés, donc les OGM, ont une définition légale en Europe, ce qui n'est pas le cas par exemple aux États-Unis. Donc cette définition, qui vient d'une directive européenne, est la suivante, je vous la lis. Un OGM est un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou par recombinaison nouvelle. Donc je ne vais parler que des plantes aujourd'hui. Ça veut dire en fait en gros que ces plantes n'ont pas été obtenues par croisement, mutagénèse ou autre méthode biotechnologique, mais par transformation génétique. Donc à l'heure actuelle, cette définition ne couvre que les nouvelles variétés obtenues par transformation génétique, qui s'appelle aussi transgénèse. Et ces plantes donc sont appelées plantes génétiquement modifiées, des PGM, plantes transgéniques ou plus récemment des plantes biotech. Alors, quand on parle donc de plantes génétiquement modifiées, ben, vous entendez le terme modification génétique, donc c'est-à-dire modification du génome, du patrimoine génétique. Mais depuis quand modifie-t-on le patrimoine génétique des plantes? Alors, je vais vous rappeler quelques principes très très simples pour resituer le problème. Alors, le premier principe, c'est que le génome d'une plante, donc son patrimoine génétique, comme le nôtre d'ailleurs, évolue au cours du temps. Donc, de génération en génération, ce patrimoine génétique, il accumule des mutations, il change. Et l'homme, depuis qu'il est devenu agriculteur, donc depuis 12 000 ans ou un peu plus, eh bien, il modifie ce patrimoine génétique des plantes cultivées. Alors, je vais vous donner un exemple. Le maïs. Le maïs est une création humaine à partir du théosinte. Et vous voyez donc en bas un épi de maïs comme vous le connaissez, qui est en fait issu du théosinte. Et vous voyez par comparaison l'épi du théosinte au-dessus. En fait, l'homme a accumulé plusieurs mutations qui vont résulter dans la production d'un beaucoup plus gros épi, mais surtout de grains qui vont rester attachés à l'épi, ce qui n'était pas le cas du théosinte. Donc le résultat de l'accumulation de ces mutations dans le maïs que nous connaissons, eh bien ce résultat il est très, très favorable pour l'agriculteur, parce qu'il n'est pas obligé de faire sa récolte sur le sol. Il ne doit pas récolter ses épis sur le sol. Il peut prendre directement les épis sur la plante. Mais vous comprenez aussi que pour le maïs, ça n'est pas du tout favorable. Parce que quand l'épi est mûr, eh bien, il tombe sur le sol. Toutes les graines sont attachées et donc elles vont toutes germer au même endroit. Ça veut dire que le maïs, tel que nous le connaissons, eh bien, il est incapable de survivre dans un écosystème naturel. Il est incapable de survivre sans l'intervention de l'homme. Et donc on peut dire que le maïs, cette plante cultivée que nous connaissons bien, c'est une création humaine. Et il en est de même pour la plupart de nos plantes cultivées. Donc nos ancêtres en inventant l'agriculture et l'élevage, ont profondément modifié leur environnement. Et dire que les plantes cultivées sont naturelles et que les PGM, les plantes biotech, ne le sont pas, c'est tout à fait faux. Les plantes que nous mangeons n'ont rien de naturel, mais elles sont le produit d'un long, ininterrompu, laborieux et discret processus d'amélioration. Alors, maintenant, la transformation génétique dans tout ça. Eh bien, la transformation génétique a permis une nouvelle approche pour améliorer les plantes, puisque avec la transformation génétique, on a accès à un beaucoup plus grand réservoir de gènes que par les techniques classiques. Alors, je vais reprendre ce concept. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis toujours, les agriculteurs et aujourd'hui les semenciers modifient le patrimoine génétique des plantes. Donc, on appelle ça de l'amélioration génétique. Donc, ils vont introduire des nouveaux caractères, une résistance en champignons, un plus gros fruit, une autre couleur, une résistance au froid, un meilleur rendement. Et l'ensemble des techniques accessibles sont en fait divisées en deux catégories. D'une part, les méthodes dites classiques, c'est-à-dire les croisements au sein de l'espèce, mais aussi entre espèces apparentées. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a amélioré la résistance aux maladies des tomates. La mutagénèse, donc par des produits chimiques ou des rayons ionisants. Et puis les méthodes biotechnologiques, donc la variation somaclonale, qui est une sorte de manière également d'augmenter la fréquence des mutations dans les plantes en les cultivant sur des milieux synthétiques, le sauvetage d'embryons après des croisements forcés, la fusion de protoplastes, donc de cellules végétales d'espèces différentes, et enfin la transgénèse. Alors en fait, toutes ces techniques ont été mises sur ces diapositives donc vous voyez une flèche qui indique la précision de l'introduction du nouveau caractère. Alors en effet, avec la transgénèse, on va transférer un gène, donc on sait ce qu'on transfère, on sait ce qu'on modifie, ce qui n'est absolument pas le cas de toutes les autres méthodes que je vous ai citées. Paradoxalement, toutes ces autres méthodes, donc toutes les méthodes sur la transgénèse, sont des techniques utilisées sans que la population exprime de crainte ou s'y oppose. Or, ces techniques sont beaucoup moins précises puisqu'on ne sait absolument pas ce qu'on change dans le patrimoine génétique. La sélection se fait donc sur des caractères visuels ou organoleptiques. Alors, maintenant, revenons à la définition légale des plantes génétiquement modifiées, donc qui sont issues d'une transformation génétique. Et on va un peu voir l'historique. Depuis quand transforme-t-on des plantes ? Enfin, bien avant l'homme, il y a une bactérie, Agrobacterium tumefaciens, que vous voyez ici à gauche avec de longs flagelles, qui est capable de transformer les plantes et qui est responsable d'une maladie que vous voyez ici à droite qui s'appelle la gale du collet. Le collet est la partie de transition entre les racines et la tige. Donc cette gale, c'est une sorte de tumeur qui est donc provoquée par l'infection d'Agrobacterium tumefaciens d'une bactérie. Et l'étude de cette maladie a permis d'identifier le seul mécanisme naturel de transfert de gènes chez la plante. Et c'est l'équipe belge de Jeff Schell à droite et Marc Van Montagu ici à gauche, à l'université de Gand. C'est cette équipe belge qui va jouer un rôle pionnier dans cette découverte scientifique. En effet, en 1974, ils découvrent que la bactérie possède ce qu'on appelle un plasmide, c'est-à-dire une molécule d'ADN à réplication autonome. Et c'est la présence de ce plasmide qui est responsable de la maladie, donc la tumeur. C'est pour ça qu'ils appellent ce plasmide TI pour tumor inducing, donc qui induit une tumeur. Et c'est eux qui vont comprendre que la bactérie, en fait, intègre dans le génome de la plante une partie de ce plasmide TI, qu'ils vont appeler TDNA pour ADN transféré, transferred DNA. Donc c'est eux qui vont découvrir tout l'ingénierie de cette bactérie, l'ingénierie naturelle de cette bactérie. Et donc c'est l'intégration des gènes de cette bactérie dans le génome de la cellule infectée qui va provoquer une division cellulaire et la formation donc de cette tumeur qui a été appelée gale du collet. Donc ici vous voyez un petit schéma qui reprend ce système naturel de transfert de matériel génétique. Donc dans la nature, une plante blessée va relarguer des molécules qui vont attirer ces bactéries dans le sol. Grâce aux flagelles que je vous ai montrés, les bactéries vont se mouvoir dans la solution du sol et donc vers la source de ces attractants chimiques. La bactérie va se coller à une cellule végétale saine et elle va fabriquer un ADN de transfert à partir de son plasmide TI. ADN de transfert qui va aller s'intégrer dans le noyau de la cellule, provoquer de nouveau sa division et provoquer donc la maladie que l'on connaît, la gale du collet. Alors pour les plantes récalcitrantes à ce système naturel de transfert génétique, il y a d'autres techniques. Je peux répondre à des questions si ça vous intéresse. Aujourd'hui, où cultive-t-on ces fameuses plantes biotech ? Vous voyez ici une carte du monde avec les cultures en 2014. La carte avec les cultures, les surfaces cultivées en 2015 n'est pas encore publiée. Alors, je sais que c'est très petit, vous ne devez pas lire, mais vous voyez, vous reconnaissez la carte mondiale et les couleurs donc, indiquent les surfaces cultivées en OGM. Donc, vous voyez que alors que cette technologie a été développée en Belgique, eh bien, la transformation des plantes s'est développée partout ailleurs qu'en Europe. En particulier en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie. Alors, en 2014, il y avait 28 pays qui cultivaient des plantes biotech et les principaux pays qui cultivent les plantes biotech sont des pays où réside plus de la moitié de la population mondiale. Alors, les 6 pays qui cultivent le plus de plantes biotech sont, sans surprise, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Inde, la Chine et le Canada. Et avec ces 6 pays, vous avez déjà 95% des terres cultivées, qui atteignait plus de 180 millions d'hectares en 2004. Donc, en fait, cette courbe reprend l'augmentation des surfaces cultivées. La première plante biotech a été commercialisée en 1994. Mais les plantes que nous connaissons aujourd'hui ont été commercialisées depuis 1996. Et donc, vous voyez que depuis lors, cette surface n'a pas cessé d'augmenter. Et depuis 2011, les pays en voie de développement ont dépassé, en termes de superficie de surface cultivée en plantes biotech, les pays industrialisés. Alors, on estime environ à 18 millions d'agriculteurs, donc les agriculteurs qui utilisent des variétés biotech. Et dans ces 18 millions d'agriculteurs, on estime à plus de 16 millions des agriculteurs dans donc, des pays en voie de développement avec peu de ressources. Alors, quelles plantes cultive-t-on ? En majorité, donc à plus de 95%, vous n'avez en fait que 4 espèces de plantes cultivées. Tout d'abord le soja, puis le maïs, le coton et enfin du colza alimentaire. Donc ici, vous sont représentés en vert foncé les surfaces cultivées en variété biotech pour ces 4 espèces cultivées. Donc dans le monde entier, 82% des surfaces cultivées en soja le sont en variété biotech. Pour le coton, c'est 68%, pour le maïs, 30% et le colza, 25%. Sur la grande majorité donc, de ces surfaces, seulement 2 nouveaux caractères ont été introduits, la tolérance aux herbicides totaux et la résistance aux insectes. Et depuis 2007-2008, la combinaison de ces deux caractères. Donc en résumé, les plantes biotiques aujourd'hui, c'est quoi? C'est 12% de la surface cultivée mondiale, 28 pays, 4 espèces, 2 modifications génétiques. Donc USA, Brésil, Argentine, Inde, Canada, Chine occupent 98% de la surface totale cultivée. Maïs, colza, soja et coton biotech, 95% des plantes biotech. Et les deux traits majeurs sont la tolérance aux herbicides totaux et la résistance aux insectes, que nous allons expliquer un petit peu. Alors pourquoi ces plantes-là? D'où ça vient? En fait, il s'agit juste d'une continuité de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire améliorer pour augmenter le rendement agricole. Donc, il faut savoir, donc ici vous avez ce qu'on appelle un camembert, qui représente la production mondiale chaque année. En fait, chaque année, nous perdons à peu près un tiers de la production mondiale potentielle, à peu près en part égale, à cause des mauvaises herbes, des insectes nuisibles et des maladies. Pour réduire ces pertes, l'agriculture conventionnelle utilise des produits chimiques. Et vous savez tous que ces produits ont un impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Donc il y a une très grande pression pour réduire cette dépendance par rapport aux produits chimiques. Oui, mais il faut garder un rendement élevé, en particulier si on veut nourrir les 10 milliards d'individus en 2050. Donc, pour ces caractères, donc un meilleur contrôle des mauvaises herbes, des maladies et des insectes, donc on peut modifier les plantes par ingénierie génétique. Et donc, ça permet également un très bon retour sur investissement, parce que vous savez que les firmes, leur but, c'est de gagner l'argent. Cette recherche, elle coûte très cher, en particulier en commercialisation, donc entre 5 et 10 millions d'euros de frais de dossier de commercialisation pour une plante biotech équivalente sur le point de vue nutritionnel, mais plus de 20 millions d'euros pour une plante biotech non équivalente d'un point de vue nutritionnel. Et donc, il faut un retour sur investissement. Et donc, il faut toucher un caractère qui intéresse de très nombreux agriculteurs. D'accord ? On est ici vraiment dans une continuité, encore une fois. Alors, je vais vous expliquer, en fait, quelles sont, en quoi consistent les modifications les plus courantes. Donc, les plantes résistantes aux herbicides totaux ont été créées pour une utilisation d'herbicides peu toxiques, ou en tout cas moins toxiques que les herbicides dits sélectifs, pour une utilisation d'herbicides dégradables dans le sol. En fait, ce sont donc des herbicides qui vont être dégradés par des bactéries du sol et qui sont donc des herbicides efficaces à petite dose. Alors, un herbicide que vous connaissez très très bien, c'est le nom commercial, sous son nom commercial de Roundup. Il s'agit de glyphosate et également le Basta, qui est en fait de la phosphinotricine. Alors, pourquoi ces herbicides sont dits totaux? C'est parce qu'ils tuent toutes les plantes. Pourquoi tuent-ils toutes les plantes? C'est parce qu'en fait, ils s'attaquent à une étape métabolique qui est présente dans toutes les plantes et qu'ils vont inhiber. Et s'ils inhibent cette étape métabolique, les plantes ne peuvent pas survivre. Mais on peut rendre la plante résistante en ajoutant une cible qui n'est pas sensible à l'herbicide ou en ajoutant un système de désintoxication. Les plantes BT résistantes aux insectes sont appelées BT parce qu'elles contiennent un gène de la bactérie Bacillus thuringiensis. Donc c'est une bactérie du sol tout à fait exceptionnelle qui est capable de sporuler quand un de ses nutriments vient à manquer. Et les spores, donc qui sont un moyen de survie pour la bactérie, contiennent des bactéries insecticides. Donc il y a plus de 300 protéines insecticides différentes qui ont été identifiées dans ces spores. Ces toxines ont des spécificités différentes. Donc c'est un moyen de défense de la bactérie contre les insectes. Et ces spores ont été utilisées en agriculture depuis 1929. Et ces spores, en fait, constituent encore le principal insecticide en agriculture bio. Donc nous avons un assez grand recul par rapport à l'utilisation de ces toxines BT. Donc vous voyez ici, par exemple, un épandage en avion sur une forêt infestée par des insectes nuisibles, épandage de spores de BT. Mais la persistance en champ de ces spores est faible, donc il faut des sprays répétés, ce qui est polluant. Ces spores ne pénètrent pas dans tous les tissus. Si vous faites une pulvérisation, les parties du dessus vont être protégées par les parties du dessous. Et puis ces spores coûtent très cher à produire, puisqu'il faut les produire en fermentateur. Donc les chercheurs ont eu l'idée de directement transférer dans la plante un ou deux gènes de la bactérie codant pour une toxine pouvant tuer les insectes pestes, les insectes nuisibles majeurs de la culture. Donc plus besoin de vaporisation et meilleure efficacité. Alors ces plantes BT donc ont connu un grand succès commercial, en particulier le coton depuis sa commercialisation en 1996. Donc pratiquement tous les pays qui cultivent le coton, qui est une culture qui nécessite des épandages assez fréquents d'insecticides, donc à peu près tous les pays donc cultivateurs de coton cultivent des variétés donc de coton BT. Alors, je vous ai parlé des plantes biotech dans le monde. Revenons en Europe. En Europe, nous avons 47 variétés biotech autorisées à l'importation, mais seulement 2 variétés autorisées à la culture en Europe, qui sont le maïs BT résistant à la pyrale et la pomme de terre Amflora. Il y a plus de 70 dossiers qui attendent une décision, ce qui représente, selon Europa Bio, plus de 44 années de délai cumulé, donc de délai de décision cumulé. Donc je reviendrai à cette situation de l'Europe particulièrement bloquée d'un point de vue décisionnel. Vous voyez donc ici la pyrale du maïs, qui est un insecte qui fait des ravages dans la culture du maïs parce que la larve de cet insecte creuse des galeries. Et donc ces galeries dans les tiges donc, vont provoquer une diminution de rendement. Cet insecte est difficile à contrôler par des pulvérisations d'insecticides vu que l'insecte est protégé à l'intérieur de la plante. Et cet insecte fait également de nombreux dégâts dans l'épi puisqu'il y creuse aussi des galeries, ce qui fait que les épis en fait, de culture traditionnelle, classique, donc... ont plus de risques d'être infectés par des champignons, puisque les galeries sont des voies d'accès d'infection par des champignons. Et donc, au niveau du stockage également, les grains BT sont mieux protégés contre les attaques de champignons. Alors, la deuxième culture autorisée en Europe, c'est la pomme de terre Amflora. Alors, cette pomme de terre Amflora a une composition en amidon modifiée. En fait, l'amidon, donc c'est une macromolécule, enfin plutôt un ensemble de deux macromolécules qui sont l'amylopectine et l'amylose. Dans cette pomme de terre Amflora, on n'a gardé que l'amylopectine qui est utilisée dans l'industrie du papier notamment ou l'industrie textile. Donc vous voyez le papier blanc qui est tout lisse, ben, il est tout lisse grâce à l'amidon, grâce à l'amylopectine de l'amidon. Et donc, cette industrie utilise des pommes de terre industrielles et normalement, il faut qu'elle sépare les deux composants de l'amidon, ce qui est polluant et aussi très coûteux. Donc, c'est pourquoi les chercheurs ont développé cette pomme de terre, donc avec un avantage industriel. Alors, vous voyez qu'il y a 14 ans, il y a eu un besoin de 14 ans de procédure avant que ces cultures soient autorisé en 2010. Vous voyez ici un tableau qui reprend depuis 2007 jusqu'en 2010 les surfaces en hectares, surfaces cultivées en plantes biotech, donc en Europe. Alors, vous voyez tout de suite que c'est la première ligne, c'est-à-dire l'Espagne qui cultive le plus de plantes biotech. Donc elle représente plus de 80% des surfaces cultivées en plantes biotech en Europe. La France a arrêté sa culture de variétés biotiques en 2008 suite à un moratoire. Et donc les autres pays, Portugal, Allemagne, Roumanie, Pologne, Suède, Slovaquie, ont une, je dirais, une production assez anecdotique. Mais en fait, en avant 2007, ce n'était pas l'Espagne qui cultivait le plus de plantes biotech en Europe, c'était la Roumanie. Comment autorise-t-on les PGM à la commercialisation? En fait, la commercialisation ainsi que les tests en champ sont régis par une directive européenne dite 2001-18. Dans cette directive, comme dans celle qui l'a précédée, on considère que la méthode de transformation génétique n'est pas dangereuse en soi. Donc la transformation n'apporte pas plus de risques que les autres méthodes, mais que les risques éventuels pourraient être liés donc à la séquence génétique, donc au gène qui est transféré. Donc les dossiers de commercialisation de tests en champ sont des cas d'étude au cas par cas, et donc on va analyser les risques éventuels liés à la nouvelle protéine qui sera produite dans la plante. Donc comme je l'ai dit, il y a deux types de dossiers, commercialisation ou test en champ. Pour toute commercialisation, vous devez d'abord faire des tests en champ dans un ou plusieurs pays européens. Alors pour avoir cette autorisation, il faut que la firme ou l'institut public qui désire faire ce test, donc ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas lire, de toute façon c'est le parcours du combattant, c'est un grand labyrinthe. Donc il faut d'abord l'institution, comme je le disais, ou la firme présente un dossier, dépose un dossier dans un des conseils de biosécurité des pays européens. Donc ce conseil de biosécurité va examiner cette demande, émettre des réserves, donc éventuellement donc, demander de revenir avec un meilleur dossier, et puis va donc éventuellement autoriser ces tests en champ. Une fois que ces tests en champ se sont bien passés, que les résultats sont concluants, donc que l'on a pu reproduire donc en plein champ les effets qu'on avait observés en laboratoire, la firme ou l'institut public va revenir cette fois-ci avec un dossier de commercialisation qui est beaucoup plus conséquent. Donc il peut déposer dans de nouveau un des conseils de biosécurité d'un pays membre qui va cette fois-ci l'apporter à l'Union européenne. À l'Union européenne, c'est l'Agence de sécurité alimentaire, l'EFSA, qui est en fait composée d'experts européens, donc des 28 pays membres indépendants, qui va étudier le dossier. S'il remet un avis favorable, il faut que les États membres votent. Oui ou non, peut-on commercialiser cet OGM? Mais donc, il faut d'abord un avis favorable des experts des pays membres. Si c'est non, il faut que l'Union européenne décide. Donc, on est... Donc, à ce moment-là, c'est la Commission qui doit décider lorsque, pour une majorité qualifiée, il n'y a pas eu un vote positif. Alors, vous avez ici une représentation des votes des pays membres sur les avis rendus par l'EFSA, c'est-à-dire par les experts scientifiques désignés par les pays membres. Donc, en rouge, c'est non, en vert, c'est oui, en jaune, je m'abstiens. Alors, vous voyez que, par exemple, l'Autriche en haut, donc tout en haut, le Luxembourg, la Grèce, eh bien, ils votent toujours, donc les pays, ces pays membres, votent toujours contre l'avis de leurs propres experts scientifiques. Quel que soit l'avis, c'est non, non, non. D'accord? Par contre, tout en bas, on voit que la Suède, les Pays-Bas, la Finlande, la République tchèque ou l'Angleterre vont suivre l'avis scientifique. Si l'avis est positif, ils le suivent. Et la Belgique, comme d'habitude, on est au milieu, c'est une fois oui, une fois non, une fois je m'abstiens, c'est l'art du compromis. Donc vous voyez que la décision n'est pas scientifique, elle est politique. Bon, maintenant revenons sur ce qu'on évalue, c'est-à-dire les risques pour la santé des hommes et des animaux. Donc l'évaluation des caractères allergènes ou toxiques obligatoires. Donc puisqu'on sait ce qu'on introduit dans la plante, on va donc faire cette évaluation en tenant compte de la source du gène transféré. Donc est-ce que l'organisme d'où est issu ce gène est lui-même allergène, oui ou non. On va comparer la séquence de la protéine introduite, la nouvelle protéine, avec une banque de données et éventuellement faire des tests d'allergénicité sur des sérums de patients. Alors, une caractéristique typique d'allergène alimentaire, c'est une mauvaise digestibilité. Et donc, on va aussi tester la stabilité de la protéine, de la nouvelle protéine à la digestion. Alors, les risques environnementaux donc, sont évalués avec beaucoup de précautions. Il y a 16 points de la directive 2001-18 qui concernent... qui concerne donc ces risques environnementaux. Et donc, je vous ferai remarquer que c'est la première fois en agriculture qu'on se pose la question, est-ce que ma culture a un impact sur les vers de terre du sol? Est-ce que ma culture a un impact sur les mauvaises herbes, etc. C'est la première fois qu'on se pose ce genre de questions. Et donc, on va évaluer la probabilité de croisement de cette plante biotech avec des plantes sauvages, les risques potentiels du transfert de transgènes, etc. Donc, dans l'évaluation de ces risques, il faut aussi évaluer les coûts et bénéfices pour l'environnement. Et comme je vous l'ai montré pour le coton BT, on peut arriver à des situations où la culture BT est plus favorable pour l'environnement que la culture traditionnelle. Alors ici, vous avez un tableau donc avec quelques pays européens, l'Autriche, la France, l'Allemagne, la Grèce, le Luxembourg, la Hongrie. Donc, ces pays européens qui interdisent au niveau national la culture ou l'importation de ces plantes biotech, et ce, malgré une autorisation par l'Europe. En fait, ils invoquent un article de la directive 2001-18 qui s'appelle la clause de sauvegarde. Donc ces pays disent, et donc remettent un dossier à la Commission européenne, dit « Ah, chez nous, il y a un risque et nous invoquons la clause de sauvegarde suivant donc le principe de précaution donc développé à l'article 23 ». Donc, ce principe de précaution donc, permet d'interdire provisoirement la culture ou la vente d'un organisme génétiquement modifié en invoquant un risque sérieux pour la santé et l'environnement, risque qui doit être étayé avec des preuves scientifiques. Ça, c'est l'article 23. Donc, la France, que je vous ai citée dans un exemple précédent, a un moratoire depuis 2008. Donc, vous savez bien que cette interdiction a été changée. Donc, c'est un pacte politique OGM contre nucléaire. Je continue à faire du nucléaire, mais j'interdis les OGM. Vous savez bien, le Premier ministre de Sarkozy, non, le ministre de l'Agriculture de Sarkozy a déclaré ça dans la presse après son mandat. Et donc, la France, et je prends l'année 2012, parce que nous allons revenir à cette année 2012, a rendu un dossier à l'EFSA. Et l'EFSA, en 2012, a dit à la France « Ben non, moi, votre dossier, je ne peux pas l'accepter parce que vous n'avez pas d'argument scientifique et vous ne pouvez pas invoquer l'article 23 de la directive. Vous n'avez aucun argument scientifique pour interdire la culture ou l'importation d'OGM. Votre moratoire n'est pas légal. » Et en septembre 2012, condamnation des interdictions de culture par la Cour européenne de justice. En fait, on est dans un cul-de-sac juridique et depuis 1999, donc 13 États membres de l'Union européenne se sont mis ensemble et ils ont proposé ce qu'on appelle la loi de nationalisation, c'est-à-dire une possibilité pour les pays membres de l'Union européenne de refuser l'importation ou la culture pour des motifs non scientifiques, pour des motifs éthiques, pour des motifs philosophiques, pour des motifs religieux. Alors, vous vous rendez compte, évidemment, que c'est un exercice très difficile, puisqu'il existe une clause de libre circulation dans la Commission européenne. Et les opposants à cette loi ont évidemment tout de suite mis en avant qu'on était en train de détricoter des mesures communautaires qui pouvaient créer un précédent dans d'autres matières. Pourtant, le 13 janvier 2015, cette loi a été votée au Parlement européen et donc est en train donc d'être mise en place. Alors, en synthèse de cette première partie, quels sont les enjeux pour l'Europe du rejet de ces plantes génétiquement modifiées ? Alors, vous avez peut-être plus d'idées que moi, mais qu'est-ce qu'on gagne à ce rejet ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, je suis d'accord avec vous, si la société Monsanto, je suis d'accord avec vous, la société Monsanto, elle s'enrichit à l'aide des biotechnologies, mais si ces sociétés s'enrichissent, on peut aussi constater que d'autres s'enrichissent en misant sur la peur des plantes biotech pour constituer des fonds spéculatifs sur les denrées bio. Qu'est-ce qu'on perd ? On perd une technologie aux applications multiples, on voit une hausse des prix alimentaires, une diminution de la compétitivité des agriculteurs européens et une augmentation de la dépendance de l'Europe vis-à-vis de ses importations. Ça, ce sont les faits. Alors, où est la science ? Donc, nous avons déjà vu un recul de la place de la science dans la régulation. Alors, où est la science dans tout ça ? D'abord, je voudrais quand même rappeler quelque chose que le grand public ignore souvent, c'est que ces outils de génétique, donc cet outil de transformation est un outil absolument indispensable dans les laboratoires pour comprendre la fonction des gènes. Donc, c'est vraiment un outil fondamental de recherche, donc pour une meilleure compréhension. Et que c'est vrai que par le rejet des applications de cette technologie, on ne finance plus ce type de recherche, ou en tout cas beaucoup moins que dans les pays voisins. Donc il y a aussi un recul de la science à ce niveau-là. Mais cette transformation génétique est vraiment très importante d'un point de vue fondamental. Alors, je vais brosser très très rapidement les différentes possibilités qu'offrent ou ont déjà offert la transformation végétale, à part les possibilités donc commercialisée et connue du grand public. Et puis, je vais revenir sur la perception par la société de la science au travers du cas de ces OGM. Alors, il y a un exemple qui fait parler de lui maintenant depuis plus de 10 ans. C'est l'exemple du riz qu'on appelle Golden Rice. Golden parce qu'il est jaune, parce qu'il a été amélioré en provitamine A. Donc la provitamine A, c'est en carotène, donc c'est un pigment jaune qui donne la couleur au riz. Et ce bêta-carotène est absent dans toutes les variétés de riz. Or, ce bêta-carotène, cette provitamine A, est tout à fait essentiel pour nous, pour notre vision, mais aussi pour notre immunité. Et donc dans les populations, en particulier en Asie, qui utilisent le riz comme base de leur régime alimentaire, il y a des carences très sérieuses avec des conséquences sur la perte de vue et perte d'immunité tout à fait dommageables pour leur santé. On estime à plus de 70% les enfants en âge préscolaire dans le sud-est asiatique atteints d'une carence en vitamine A. Donc le chercheur que vous voyez ici sur la photo, Egopotricus, qui travaille dans un institut tout à fait public suisse, donc a eu l'idée de développer ce riz déjà dans les années 90, et donc de rendre ce riz accessible aux agriculteurs, donc de manière tout à fait gratuite. Mais l'opposition là-bas est organisée et vive, et donc pour le moment ce riz n'a toujours pas pu être commercialisé. donc à cause des destructions des tests en champ. Donc on peut aussi enrichir le colza pour faire une huile donc enrichie en oméga 3 ou rendre les cacahuètes hypoallergéniques. Il y a également de nombreuses applications médicales qui visent en fait à produire des protéines à intérêt clinique, à intérêt donc pharmaceutique dans les plantes. Et les plantes, par rapport à d'autres systèmes de culture qui sont, et de production, les bactéries, les levures ou des systèmes de culture de cellules de mammifères, comportent plusieurs avantages. Celle de produire ces protéines d'intérêt à un meilleur coût, de pouvoir augmenter la production, donc en augmentant la surface cultivée, qui se fait de manière plus facile que de fabriquer de nouveaux fermentateurs, d'avoir une excellente qualité de produit, avec un risque de contamination faible, parce qu'il n'y a pas de pathogène de plante qui se développe donc dans la plante, qui est également un pathogène pour l'homme, et un coût de stockage réduit, puisque vous pouvez produire des anticorps, par exemple, dans des semences, et les garder plusieurs mois à température ambiante, pas besoin de frigo ni de congélateur, et ces anticorps restent actifs. Donc il y a de très nombreux exemples prêts à la commercialisation. De production, par exemple, d'hormones de croissance, d'albumine humaine, d'alpha-interféron, etc. Ou de vaccins, ou encore d'anticorps. Et vous savez que ces anticorps ils sont utilisés non seulement pour des immunothérapies, mais aussi pour simplement des tests de diagnostic. Or, ces anticorps coûtent très cher et les produire dans les plantes les rend beaucoup moins chers. Il y a aussi de nombreuses applications en industrie pour en fait produire des substituts des produits de la pétrochimie, donc fabriquer des produits biodégradables à partir des huiles des plantes oléagineuses. On peut également modifier la composition de la lignine, donc pour faire un bois, pour faire donc de la pâte à papier de manière moins polluante, parce que vous savez que dans le bois, ce qu'on utilise, c'est la cellulose, et la lignine est un déchet qu'il faut séparer de la cellulose, et c'est extrêmement polluant, mais aussi synthétiser des plastiques qui sont biodégradables, contrairement à ceux dérivés du pétrole. Donc je fais ici un inventaire des possibilités, mais, et nous pourrons revenir là-dessus, leur utilisation est souvent sujette à discussion parce que parfois elle pourrait se faire aux dépens de surfaces cultivées alimentaires. Mais évidemment, le but est de remplacer des usines par des champs de plantes oléagineuses. Alors, je viens de vous montrer une série d'exemples d'applications. Et en facteur limitant à ces applications, il y a l'opposition à la technologie qui affirme que les risques, en particulier les risques pour la santé humaine, sont sous-estimés. Alors l'affaire Serralini en 2012, vous souvenez 2012, c'est un très très bel exemple. Donc Serralini, c'est un chercheur français qui a fait une étude pour prouver que les OGM, donc il a pris un type d'OGM que je vais vous présenter, un maïs, était toxique pour l'homme. Et donc il a fait un deal avec le Nouvel Obs pour présenter ses résultats sans aucune contre-expertise. Et en plus, il a étendu son étude à tous les OGM. Oui, les OGM sont des poisons. Alors déjà, on peut se dire, même si son étude, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, était correcte, ce n'est pas pour ça que tous les OGM sont les poisons. Quand on a pu prouver que le Softénon était toxique, il n'y a aucun journaliste qui a mis « tous les médicaments sont des poisons ». Nous sommes d'accord. Alors revenons à cette publication qui présente une étude de nourrissage de longue durée de 2 ans avec un maïs transgénique tolérant à l'herbicide Roundup. Et cette étude conclut que chez le rat, et en fait ils ont pris une souche de rat de laboratoire qui normalement vit est maintenu en vie quelques mois. Vous allez voir pourquoi. Mais là, ils ont gardé donc ces rats pendant 2 ans. Et donc, ils ont publié que chez ce rat, la consommation dans le régime alimentaire de ce maïs, associé ou non à son herbicide, avait une incidence accrue des tumeurs mammaires, des troubles hépatiques, des troubles rénaux et réduisait aussi l'espérance de vie des animaux. Alors, vous avez sans doute vu ces photos. Moi, quand j'ai vu ces photos en 2012, j'étais complètement effrayée. Mais il y a un bug. Premier bug, c'est que ce rat, en fait, à gauche, est nourri avec le maïs transgénique. Au milieu, le maïs transgénique et du Roundup Ready. Et à droite, avec du Roundup. Donc. Mais il n'y a pas de rat nourri sans maïs transgénique et sans Roundup. Et quand vous allez voir les résultats, les rats en meilleure santé sont ceux qui ont eu la plus grande dose d'herbicide. Il n'y a pas de photo de rat contrôle. Ça, c'est une erreur. Une erreur des référies, une erreur du journal. Une autre erreur est que la souche de rat utilisée, qu'elle mange n'importe quoi, elle développe des tumeurs mammaires. Et ça, c'était connu depuis les années 1970. C'était bien connu que cette souche de rat en particulier, qui est une souche de laboratoire, développe des tumeurs. Même si elle mange du persil, elle va développer des tumeurs. Donc cette étude est profondément malhonnête. Les académies scientifiques d'agriculture, de médecine, de pharmacie, des sciences, des technologies et vétérinaires ont réagi immédiatement pour dire que cette étude devait être retirée car elle ne prouvait rien et qu'il y avait des insuffisances de méthodologie, en particulier les analyses statistiques, étaient complètement foireuses. Donc le papier a été retiré. L'étude de Seralini, qui avait été financée par Carrefour, qui n'arrivait pas à écouler ses marques de produits garantis sans OGM, a donc été désavouée. Pourtant, l'impact de cette étude sur le public est énorme. Parce que les journalistes ont publié les résultats, mais n'ont jamais fait la publicité du retrait de l'étude. Donc sous la pression, en plus de certains lobbies qui ont utilisé cette étude, on a encore renforcé les demandes pour les commercialisations de ces produits et par là même augmenté les coûts des dossiers. Donc encore diminuer la compétitivité. Donc il n'y a plus que les grosses industries comme Monsanto qui peuvent se payer un dossier de commercialisation. Donc on diminue aussi le choix pour les agriculteurs et on renforce une situation de monopole. Alors les arguments scientifiques qui expliquent l'utilisation de la transformation génétique, les applications de la transformation génétique, apparaissent évidemment bien pâles vis-à-vis de la crainte de subir la loi du plus fort, donc ces situations de monopole qu'on a engendrées par cette surrégulation, donc la crainte de subir la loi du plus fort, de perdre la liberté du choix alimentaire. Donc personne n'a envie d'être obligé de se retrouver avec uniquement des plantes cultivées qui seraient commercialisées par Monsanto, Syngenta ou Bayer. On n'a pas envie d'être soumis à un monopole. Donc il y a des craintes tout à fait justifiées. Mais est-ce que ces situations de monopole justifient qu'on jette le bébé avec l'eau du bain? Alors aussi, en tant qu'observateur, je ne peux que constater la différence de traitement médiatique par rapport au risque de santé. Donc d'une part, Et je suis sûre que vous avez tous lu ça dans la presse. Il y a eu une importante couverture médiatique des effets cancérigènes tout à fait infondés de ce maïs Rhône-de-Prédit. Et d'autre part, la très très maigre couverture de l'affaire du tueur, de l'affaire du concombre tueur espagnol en mai 2011. Vous vous souvenez que, d'ailleurs, pendant tout un été, plus personne n'a mangé du concombre, les autorités fédérales allemandes accusaient un concombre espagnol d'avoir tué plus de 30 personnes avant de reconnaître que ce qui avait tué ces personnes et causé plus de 600 millions d'euros de pertes, en fait, étaient des graines germées bio. Mais à ce moment-là, on n'a pas eu de couverture, le bio tue. Alors, est-ce que c'est par manque d'imagination des journalistes ? Alors, je ne peux m'empêcher de replacer tout ça dans un contexte, dans la sacralisation de la nature. Parce qu'on ne va pas incriminer le fumier contaminé qui a été utilisé dans la culture des graines germées bio et qui a tué plus de 30 personnes, mais on a peur des manipulations génétiques. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus comme le pensaient les hommes du XVIIIe siècle, la nature dont émane le plus grand risque. Non, c'est de la science. Et Pascal Bruckner a écrit un livre vraiment fantastique qui s'appelle « Le fanatisme de l'Apocalypse » où il décrit cette peur du futur, cette peur de la science, cette peur de la technique. Alors cette peur de la science est largement exploitée dans la communication autour des OGM. Pascal Bruckner écrit dans son livre « L'usage seul prouvant l'utilité ou la malignité d'un objet, le seul moyen de s'en assurer est de jamais s'en servir, de stériliser toute innovation. Le danger éventuel est alors transformé en certitude. La peur donne à son objet une consistance plus forte que la réalité. » Mais c'est là-dedans, on est complètement là-dedans. Alors cette culture de la peur, en fait, elle dérive du principe de précaution qui est apparu en Allemagne dans les années 70 et qui a été popularisé par le philosophe Hans Jonas, donc qui avait publié le principe de responsabilité en 1979. Donc à ce moment-là, dans les années 70, le principe de précaution, c'est prendre ses précautions au sens d'économiser la planète pour rendre la planète à nos petits-enfants comme on l'a trouvée. Donc ne pas user les richesses naturelles de manière inutile. Il y a eu une évolution vers l'idée de risque zéro. Au moindre degré, on arrête tout, nous dit Luc Ferry. Et ce risque zéro est intimement lié à la peur. Et Luc Ferry a aussi écrit: après tout, Astérix avait bien peur que le ciel ne lui tombât sur la tête, ce qui n'est pas plus intelligent que d'avoir peur des OGM. Alors ce que dit Luc Ferry, c'est qu'aujourd'hui la nouveauté, c'est pas d'avoir peur, c'est finalement d'être fier d'avoir peur, d'avoir déculpabilisé cette peur qui n'est plus vécue comme une passion honteuse. On revendique cette peur de la science. Et on peut revenir sur ce débat philosophique qui est vraiment passionnant, parce que le débat scientifique, il n'y en a pas. Alors un mythe qui a été abondamment exploité, vous le voyez ici dans cette communication anti-OGM, c'est celui de Frankenstein. Alors c'est quoi le mythe de Frankenstein ? Ben, ça n'est rien d'autre qu'un mythe théologique de dépossession. Donc l'idée qu'une créature échappe à son créateur et menace de dévaster la planète. Donc ce qui fait peur, c'est la dangerosité, c'est la perte de contrôle. Alors là, je me permets de rappeler quand même que la lutte biologique a quelques cas sur la conscience. Par exemple, la coccinelle asiatique. Donc la coccinelle est utilisée pour combattre les insectes nuisibles, comme les pucerons. Elle est devenue une peste. Parce que dans les milieux viticoles, elle hiberne dans les grappes. Mais cette coccinelle, elle est bourrée d'alcaloïdes, qui donne un mauvais goût et qui est aussi toxique. Aux Caraïbes, on a emporté des mangoustes qui avaient été donc amenées aux Caraïbes pour lutter contre les serpents. Mais ces mangoustes, elles n'étaient pas équipées contre les serpents des Caraïbes et donc elles ont commencé à dévaster tous les poulaillers. Alors, défendre les plantes biotech aujourd'hui, est-ce que c'est défendre les multinationales? Eh bien oui, c'est souvent assimilé à défendre les intérêts des multinationales. Et quand j'ai une interview de la RTBF et que je leur explique les faits, donc je donne vraiment, j'essaye de m'en tenir aux faits, on me dit « Ah, vous êtes payé pour Monsanto ?» Alors non, je ne suis pas payé par Monsanto. Et je défends cette technologie et un bon usage, bien sûr, cette technologie, parce que j'ai envie de défendre la science et surtout me soustraire à l'obscurantisme anti-science qui règne sans tomber dans les excès du positivisme. Voilà, je vous remercie.
Vous venez d'écouter la conférence intitulée « Les OGM, une nouveauté ou une continuité » de Nathalie Verbruggen, professeure et chercheuse à l'ULB.
Tu crois que le recteur est la dernière partie du gros intestin? Tu crois que le Monténégro est un club échangiste africain? Tu crois que la reine Fabiola a le même toiletteur que son chien? Pour tout savoir, Radio Campus
92.1.